Coulisses politiques avec Henri Vernet.
On va ensuite parler de l'Iran et de l'accord qui se signe ce soir. Et pour ça, on associera l'Égypte, qui sera aussi avec nous, avec les pays du Golfe, en particulier le Qatar et les Émirats arabes unis. Et là, l'objectif sera de voir les conséquences de cet accord, le soutien au Liban, la réouverture d'Hormuz dans la durée, et évidemment la conclusion d'un accord sur le nucléaire et le balistique en Iran. Et on regardera aussi les voies et moyens de diversifier les routes de l'énergie qui sortent de la région pour réduire notre dépendance. Et au fond, le cœur de cette discussion sera aussi les conséquences de la crise au Proche et Moyen-Orient sur nos économies.
Emmanuel Macron accueille à partir de ce lundi le sommet du G7 à Évian, un sommet qui intervient après l'annonce d'un accord cadre entre l'Iran et les États-Unis. Ce deal, conclu par Donald Trump avec la République islamique, est censé mettre fin immédiatement à la guerre au Moyen-Orient et sur tous les fronts, y compris au Liban. Un accord qui sera formellement signé lors d'une cérémonie vendredi en Suisse. Le président français a annoncé que la mission maritime internationale mise en place par la France et le Royaume-Uni était prête à accompagner la réouverture du détroit d'Hormuz. De nombreux pays, comme le médiateur pakistanais, saluent cet accord, mais il reste encore des incertitudes puisqu'Israël annonce rester au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza. Bonjour à tous, je suis Loïc Barrière. Coulisses politiques, c'est une émission et un podcast disponible sur votre radio, sur Spotify, radioorient.com et nos réseaux sociaux. Comme chaque semaine, nous retrouvons le journaliste et écrivain Henri Vernet. Bonjour.
Bonjour Loïc.
Alors, la ville d'Évian, au bord du lac Léman, sera le centre du monde pendant quelques jours, puisque c'est ici que seront discutées les modalités de l'accord entre l'Iran et les États-Unis avant une signature officielle à Genève. L'annonce de ce deal a eu lieu le jour anniversaire de Donald Trump, et c'est en tout cas la première fois que l'optimisme prévaut au Moyen-Orient depuis 100 jours. Pour commencer, Henri, que sait-on de cet accord et quels sont les points non encore résolus ?
Ce qu'on en sait, pour l'essentiel, c'est ce que vous avez résumé en quelques mots. C'est d'abord, c'est un protocole. Donc c'est un protocole qui est censé en effet faire taire les armes une bonne fois, en tout cas une bonne fois au moins pour 60 jours, le temps justement de préparer et d'entrer dans des discussions qui, elles, pourraient véritablement fournir un cadre plus global et un accord de paix. Donc ce qu'on en sait, c'est que clairement, il va être mis fin au blocus du détroit d'Hormuz, que ce soit le blocus par les Iraniens avec toujours les incertitudes sur un minage ou pas de ces eaux-là par les gardiens de la Révolution, et la fin, donc, en revanche, du blocus américain, lui, sur les ports iraniens. Bref, cette double contrainte, elle sera levée. Mais même là, il y a de légères incertitudes sur les conditions pour les Américains, y compris d'ailleurs à comprendre le tweet un peu retentissant, comme à son habitude, de Donald Trump la nuit dernière, qui dit « Allez, remettez les moteurs en marche des bateaux, circuler et surtout, dit-il, circuler sans contrainte, c'est-à-dire sans ce péage qu'avaient un temps imaginé les Iraniens. Néanmoins, ce n'est pas sûr qu'il n'y ait aucune contrainte. Il pourrait y avoir, je crois, des contraintes techniques ou de sécurité, bref, peut-être une forme de péage. Tout ça est encore à définir. Mais voilà, disons que l'essentiel, c'est que ce gros point de blocage qui paralyse maintenant depuis des mois, depuis fin février, le commerce mondial et singulièrement le commerce des hydrocarbures, hein, puisque rappelons-le, je crois que c'est de l'ordre de 80% du commerce mondial des hydrocarbures qui passe par ce détroit. C'est notamment vital pour toutes les économies d'Asie, c'est très important pour le reste du monde, y compris pour l'Europe. On a bien vu en France les répercussions sur le prix à la pompe que tout cela pouvait avoir. Bon, bref, disons que ce gros point-là, ce gros point d'abcès devrait être levé rapidement, y compris dans les prochains jours, et déjà on voit les armateurs qui organisent la circulation à venir des bateaux, parce que tout ça n'est pas simple, hein. Il va falloir désengorger d'un coup des centaines de navires qui sont à l'arrêt depuis si longtemps. Donc bon, tout cela se met en place. L'autre chose qui semble acquise, donc, c'est les armes, donc pas de bombardement, en tout cas entre ces deux protagonistes principaux, et le déblocage assez vite d'avoirs iraniens, de ces avoirs qui sont gelés isolés, donc notamment dans les monarchies du Golfe, et dans un premier temps, je crois que c'est de l'ordre d'une centaine de milliards au total, mais dans un premier temps, peut-être même de sources iraniennes, avant même l'entrée en vigueur de l'accord qui sera signé en principe vendredi, le déblocage des quelques 20 milliards, je crois que c'est 23 milliards, qui sont au Qatar.
Au terme de cette guerre, qu'a gagné Donald Trump, Henri Vernet ?
C'est la grande question. Enfin, la preuve en est que des deux côtés, on crie victoire. Alors Trump, victoire comme à son habitude. En plus, il se flatte d'avoir obtenu ce deal ce dimanche, c'est-à-dire le jour de son 80e anniversaire. Donc, allez, ça y est, j'ai fait plier l'adversaire. Le problème, c'est qu'en face, les Iraniens parlent eux aussi de grande victoire et même d'humiliation des États-Unis et d'Israël, l'allié de Trump dans cette affaire. Donc, qu'a-t-il gagné ? C'était un peu votre première question sur les zones d'ombre qui demeurent. Donc, d'abord, certes, le nucléaire, il en est question, le nucléaire iranien, le programme militaire clandestin qui est mené depuis des décennies, qui avait fait l'objet d'un accord important avec Américains, mais également Européens et Iraniens en 2015, et dont les États-Unis étaient sortis sous la présidence Trump en 2018. Un accord signé en 2015, déchiré par Trump en 2018. Mais donc, il est question de ce programme, mais dans quelle mesure exactement ? Là aussi, les points de vue divergent entre Téhéran et Washington. Alors évidemment, ce sera tout l'objet des négociations à venir qui vont forcément être longues. L'accord dont je parlais, celui de 2015, le traité, le fameux JCPOA, il avait fallu des années pour le négocier. Là, on imagine bien que ce n'est pas en 60 jours qu'un nouvel accord verra le jour. Mais surtout, encore une fois, là, les termes sont assez flous. L'Iran aurait accepté de renoncer à la bombe militaire, quoi, la bombe nucléaire. Mais bon, tout cela n'est pas... D'abord, ils n'ont jamais dit qu'ils la cherchaient. Ils ont toujours dit qu'ils cherchaient à mener un programme nucléaire civil. Et puis, ils ont quand même toujours fait en sorte de se tenir au seuil de l'efficacité de pouvoir construire une bombe atomique en tant que telle. Mais qu'est-ce qu'il en sera maintenant ? Ce qui est certain déjà, c'est que Trump, il y a quelques mois, et notamment quand il avait déclenché les opérations de la première guerre d'Iran, c'est-à-dire en juin il y a un an, la fameuse guerre des 12 jours, l'objectif était de démanteler totalement l'arsenal nucléaire iranien. Ça avait été annoncé comme chose faite juste après les opérations en juin, et puis finalement, les Américains comme les Israéliens avaient reconnu que ce n'était pas le cas. Et surtout, donc, pendant les négociations qui avaient prévalu là, juste avant la reprise, enfin cette guerre en février, Américains et Iraniens étaient dans des négociations, alors plus ou moins indirectes, mais où l'exigence de Donald Trump, c'était un moratoire total pendant une vingtaine d'années, c'est-à-dire plus de nucléaire du tout pendant une vingtaine d'années. Et puis, au fur et à mesure qu'il s'enlisait en Iran, c'était passé à 5 ans. Mais bon, là, aujourd'hui, on ne sait plus du tout. Et alors, certes, le sujet sera sur la table, mais les Iraniens continuent de revendiquer de mener un programme militaire civil. Et autre point qui n'est pas pour l'instant dans le document, dans le protocole, c'est l'aspect balistique, c'est-à-dire les missiles. Et là où c'est un petit peu ironique, enfin tragiquement ironique, c'est que quand Trump avait mis de côté, avait balayé l'accord obtenu donc par Obama et les Européens en 2015, il reprochait justement qu'il n'y avait aucun aspect sur ces missiles. On parlait que du nucléaire et non pas de la force de frappe en termes de missiles de l'Iran. Et bien là, il n'en est pas davantage question. Or, pour tous les alliés arabes qui sont importants, les alliés arabes des États-Unis, c'est-à-dire les États du Golfe, pour eux, les missiles, c'est presque plus important que le nucléaire, parce que les missiles, ils les visent directement. Preuve en est, ils les ont pris sur la tête pendant plusieurs mois. Et donc ça ne figure pas.
Ça m'amène donc à vous poser la question suivante, Henri Vernet. Les Iraniens sortent-ils renforcés après cette guerre et ce bras de fer avec Donald Trump ?
Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Renforcer, alors, sur le plan matériel, non. Clairement, cette campagne de bombardement qui a duré longtemps, avec toute la puissance, la force de frappe des Américains et évidemment des Israéliens également, elle laisse un Iran très affaibli. Je discutais l'autre jour avec un diplomate européen qui disait quand même que 90 à 95% des capacités capacités vraiment nucléaires connues quoi, de l'Iran entre les différents épisodes qu'il y a eu ces deux dernières années ont été quand même détruites. Son appareil militaire est très fortement affaibli et sans parler de l'économie qui est désormais totalement exsangue, qui était déjà très mal en point, ce qui avait d'ailleurs provoqué le soulèvement, les différents soulèvements de la population qui ont été réprimés au prix de dizaines de milliers de morts par le régime des Mollahs, le régime des gardiens de la Révolution. Donc, ce côté matériel, de ce côté-là, l'Iran sort affaibli. Et c'est vrai que ce répit qu'il leur est offert là, enfin, qu'ils ont, affirmant qu'ils ont décroché, quoi, avec Trump, enfin, ils en avaient vraiment bien besoin.
Mais le régime est toujours en place.
Exactement. Henri. Voilà. Et c'est donc le deuxième aspect de la réponse à votre question. C'est qu'on peut dire que politiquement, voire diplomatiquement, eh ben, finalement, oui, l'Iran s'en sort plutôt pas mal. Parce que quelle est leur image aujourd'hui? Ils ont l'image du peuple, enfin, en tout cas, de la nation. Bah, qui a résisté finalement à, comment dire, à la toute-puissance américaine, à l'ennemi américain, l'ennemi israélien aussi, puisque au début, et c'est quand même ça aussi qui était parmi les buts de guerre, c'était quand même que aussi bien Benjamin Netanyahou que Donald Trump affichaient l'objectif de faire dégager le régime. Il y avait eu cette fameuse frappe qui avait décapité le régime des Mollahs, mais on a bien vu que, donc certes, l'ayatollah Khamenei a disparu, avait été tué dans cette frappe, mais son fils est toujours, en tout cas officiellement, aux commandes. Le régime est toujours là, il a gardé sa force malheureusement de répression, et le peuple iranien, quand même, qui figurait lui aussi parmi les objectifs, c'est-à-dire rendre une certaine liberté à ce peuple en favorisant un soulèvement, c'était ça qui était aussi dans la théorie de Trump, et bien tout cela n'est sans rien passé et ne semble pas prêt d'arriver aujourd'hui.
Est-ce qu'au terme de cette guerre, si l'accord est vraiment respecté, les Iraniens deviennent une force régionale plus importante qu'avant la guerre, puisqu'ils ont lancé des missiles sur leurs voisins? Cette menace, elle reste d'actualité.
Oui, la menace reste d'actualité. En réalité, là, je recite le diplomate que j'évoquais il y a quelques instants. Lui, il parlait, en gros, d'une installation possible, finalement, dans un état de ni guerre ni paix. Parce que, clairement, la situation restera inquiétante, menaçante, hein, vous l'avez dit. Pourquoi ? Parce qu'il reste quand même des missiles, bien évidemment, aux Iraniens. Parce que tout ne sera pas réglé. Parce que, surtout, Téhéran a vraiment découvert, ou plutôt redécouvert, parce qu'ils avaient déjà utilisé cette arme pendant la guerre en Irak dans les années 80, on l'a un peu oublié, mais en tout cas, ils ont redécouvert cette arme suprême, hein, pourrait-on dire, du blocage ou des blocages du détroit d'Ormuz. Donc, on restera dans une incertitude. Alors, tout dépendra évidemment des accords plus globaux qui pourront se mettre en place durant ces 60 jours de cessez-le-feu qui vont être donc prorogés dans l'accord de vendredi prochain. Tout dépendra aussi du rôle d'autres acteurs. Par exemple, pour un peu sécuriser la zone, on sait que la France, avec la Grande-Bretagne, a proposé, notamment durant ces négociations, d'assurer en quelque sorte la sécurité de la navigation dans ces eaux. Donc tout cela est assez important. Alors évidemment, ça ne pourra être fait qu'une fois l'accord bel et bien signé, une fois vraiment les armes mises de côté. Mais quand même, il y a cet aspect-là. Et donc, il faut la réflexion, la recherche d'un accord sur le Golfe, sur la circulation dans le détroit d'Ormuz. Tout cela, en réalité, doit se faire non pas directement, enfin pas seulement entre Téhéran et Washington, mais doit associer tous les partenaires intéressés, c'est-à-dire quand même beaucoup de monde.
Henri Vernet, est-ce qu'Israël, aujourd'hui, c'est le caillou dans la chaussure de Donald Trump? On a vu que dans une première réaction, le ministre de la Défense a annoncé que l'armée israélienne se maintiendrait à Gaza, au Liban et en Syrie.
Oui, complètement. C'est vraiment, vous l'avez dit, c'est le caillou dans la chaussure. C'est surtout le Liban, le point d'abcès, parce que les Iraniens tenaient à ce que le Liban figure dans l'accord global, que le cessez-le-feu vaille aussi pour le Liban. Pourquoi est-ce que Téhéran insistait autant là-dessus? Parce qu'ils savent bien que Trump a beaucoup moins la main, qu'en réalité, les opérations, c'est Netanyahou qui en décide, et à la fin, quel que soit le lien avec le grand frère américain, parce que c'est ça, depuis toujours... à la fin, Israël, quand même, n'en fait que à sa tête. C'est-à-dire qu'Israël agira toujours pour ce qu'il considère être comme nécessaire à sa sécurité. Donc ça, c'est en effet un caillou, c'est une inconnue. D'ailleurs, on peut même penser que d'ici vendredi, imaginons que le Hezbollah, parce que le Hezbollah aussi, évidemment, a un rôle énorme là-dedans. Le Hezbollah est fauteur de troubles. Donc imaginons que le Hezbollah provoque Israël, lance des roquettes, que Israël riposte, et de manière assez massive, comme ils le font quand même assez souvent, et tout serait de nouveau inflammable. Donc oui, alors après, il faut quand même aussi noter que non seulement... Israël et les États-Unis, c'est une relation historique, fondamentale. Il n'y a pas de sécurité israélienne sans le soutien américain, financier, militaire, absolument considérable. Mais il y a en plus une relation étroite, vieille, ancienne, entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. C'est quand même Trump, dans son premier mandat de président à la Maison-Blanche, qui avait reconnu Jérusalem comme capitale. Il avait été un des premiers à le faire dans le camp occidental, au lieu de Tel Aviv.
C'est lui qui avait parrainé les accords d'Abraham.
Exactement, les accords d'Abraham, et ça c'est vraiment important, donc qui concerne pour l'instant les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, et puis le Maroc et le Soudan. Donc il y avait cette relation. Elle s'était un peu détériorée après la défaite de Trump en 2020, elle s'était de nouveau renouée là, et là vraiment c'était les deux partenaires qui étaient partis en guerre contre l'Iran, donc à deux reprises, mais là on a vu, c'est vrai qu'aujourd'hui Trump, il est pressé, Trump il a ses urgences, alors on avait parlé de son anniversaire, mais surtout du 4 juillet, le 250e anniversaire de l'indépendance américaine, donc ça c'est un événement qui est extrêmement important pour les États-Unis, bien sûr la Coupe du Monde de foot, et surtout les élections de mi-terme, demi-mandat à venir en novembre, où là, Trump était en fâcheuse posture parce que rien n'exaspère davantage les Américains que le prix à la pompe qui était vraiment parti à la hausse comme jamais vu depuis longtemps, et l'inflation. Donc ça avait tendu les relations entre les deux dirigeants. On le sait, il y a eu une conversation téléphonique extrêmement houleuse où Trump a multiplié les injures au téléphone envers Netanyahou, en lui disant qu'il arrête en quelque sorte de l'emmerder, pardonnez-moi l'expression, qu'à cause de lui, Israël était détesté par la terre entière, et que si ce n'était grâce à sa protection, c'est-à-dire à Trump, Netanyahou dormira en prison. Donc tout ça a été dit au téléphone pour dire quand même l'exaspération de Trump à l'égard de cet allié qui, de toute façon, encore une fois, à la fin de la journée, n'en fera que à sa tête, ou du moins selon ce qu'il jugera être l'intérêt d'Israël.
Henri Vernet, Donald Trump sera encore plus sous les feux des projecteurs puisqu'il participe au G7 organisé par la France à Évian. Donald Trump sera d'ailleurs cette semaine l'invité d'honneur d'Emmanuel Macron à Versailles. C'est tout un symbole. Que représente ce sommet dans le contexte de l'annonce d'un accord Iran-États-Unis ?
C'est vrai que le contexte diplomatique, donc cette situation-là, l'accord possible, lui donne d'autant plus de relief au G7. Et clairement, ce G7, c'est Donald Trump qui va en donner le tempo. Cela dit, comme il avait déjà donné le tempo du précédent G7, il y a un an, c'était au Canada. Et non seulement il avait donné le tempo, mais il avait surtout humilié tous ses autres partenaires, puisqu'il était parti sans prévenir en plein milieu du sommet. Personne n'était au courant, parce que justement, il imaginait qu'il avait mieux à faire que de perdre son temps avec des Européens, Canadiens, Japonais, etc. Là, oui, c'est vrai qu'il y a une importance parce que ça se déroule sur fond de cet accord à venir, Genève, où ça devrait être signé, notamment par le vice-président américain J.D. Vance. C'est à deux pas d'Évian, c'est juste à côté. Et puis, en effet, les protagonistes seront là. On l'entendait dans le son que vous avez diffusé en début d'émission. Et Emmanuel Macron a également convié des dirigeants arabes directement impliqués, notamment le chef d'État du Qatar. Et donc, forcément, il y aura cet aspect-là. Après, le G7, il est aussi important parce qu'il y a quand même un autre conflit, toujours pas résolu, qui dure maintenant depuis près de 5 ans, c'est l'Ukraine, que mardi matin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky viendra à Évian, il sera présent, il y aura une rencontre avec les partenaires du G7 et avec Trump, et on le sait, les Européens ambitionnent vraiment de revenir à la table, enfin plutôt de venir, parce qu'ils n'y ont jamais été, à la table des négociations qui pour l'instant sont trustées par Poutine et par Trump, et même accessoirement les Ukrainiens. Donc il y a tous ces enjeux-là, il y a également beaucoup d'enjeux. Vous savez, la France, elle se veut quand même toujours hein, la championne du multilatéralisme, de la prévalence, de la primauté du droit international sur la loi du plus fort, bref, il y a tout ça. Et donc, il y a d'autres sujets qui sont assez importants, notamment des pistes pour rééquilibrer le commerce et l'économie mondiale, hein, qui est extrêmement déséquilibrée. Il y a des pistes également sur le numérique, sur l'intelligence artificielle. Il y a des discussions très importantes avec tous les grands patrons de la tech, hein, les grands américains. Ça souligne à quel point c'est stratégique, l'intelligence artificielle. Donc, il y aura mercredi des discussions sur ce terrain-là. Bref, tout cela, fait de ce G7 une place forte. Alors après, qu'est-ce que ça traduit de l'importance de la France et d'Emmanuel Macron ? Bah, à vrai dire, le G7, c'est son agencement mécanique hein, de se dérouler cette année en France, à Évian, après le Canada l'an dernier, et les États-Unis l'an prochain, puisque les Américains auront la présidence du G7 en 2027. Donc néanmoins, c'est vrai qu'il y a quand même cet aspect-là. C'est vrai que la France a cette pratique, hein, à cette expérience de la diplomatie internationale, de faire parler, de faire s'asseoir les gens entre eux. Donc que ce soit sur l'Iran, sur le Proche-Orient, que ce soit, et comme vous l'avez rappelé, Jean-Noël Barrot disait bien, attention, il y a aussi la situation à Gaza, il y a la Syrie, donc tout cela devrait être évoqué hein, entre le dîner des sept dirigeants des sept plus grandes puissances, et puis donc demain, enfin mardi et mercredi, dans les discussions élargies. Tout cela doit être évoqué. Après, il y a également, côté français, vous parliez du dîner à Versailles mercredi. Donc, Versailles, c'est fastueux. Tous les dirigeants n'y sont pas invités. C'est même assez rare. On se souvient d'ailleurs que Poutine y avait eu droit. Alors, c'était il y a longtemps. C'était au début du premier mandat d'Emmanuel Macron. Mais enfin, ça avait quand même déjà un peu fait jaser. Mais c'est vrai que c'est un symbole. Alors, certains pourraient dire, mais attendez, pourquoi déployer un tel faste à l'égard d'un dirigeant, de quelqu'un qui n'a que mépris pour les Européens et la France dans le lot? Bah oui, mais enfin, le dialogue, c'est quand même ce qui reste le plus important. C'est une façon de se montrer d'égal à égal, en quelque sorte, avec un dirigeant qui a tellement de cartes en main. Et puis, il faut rappeler une chose, c'est que je citais à l'instant le 250e anniversaire de l'indépendance. Bah, cette indépendance, c'est important pour les Français. Le général Lafayette, tout ça est une histoire quand même qui est très riche, qui unit quand même ces deux nations. C'est quelque chose qui reste assez présent. Et d'ailleurs, sauf erreur, le dîner, ou en tout cas une partie de cette rencontre à Versailles, devrait avoir lieu justement dans un des salons du palais symbolique des actes qui avaient accueilli à l'époque la déclaration d'indépendance des États-Unis.
Dernière question, Henri Vernet. Emmanuel Macron participe à son dernier G7. Il est en train de commencer sa tournée d'adieu à 10 mois des élections présidentielles en France.
Oui, clairement. C'est vrai qu'il a déjà un programme international assez chargé. Cela dit, ça fait un bout de temps qu'il l'a, parce que dans la mesure où il n'a plus vraiment de levier d'action sur la scène nationale depuis sa dissolution ratée en 2024, de toute façon, il est très présent à l'international. Donc oui, c'est comme vous dites, ça marque le début, disons, assez formel de cette tournée d'adieu. Ça marque aussi quelqu'un qui veut imprimer justement cette marque française, européenne, mais un peu moins européenne quand même, sur cette défense du multilatéralisme, du dialogue et vraiment de l'égalité entre tous les peuples, entre toutes les nations. Donc c'est un peu ça qui veut imprimer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a invité plusieurs autres nations hein, qui seront là, en plus des sept fondateurs, si je puis dire. Il y aura notamment l'Inde, il y aura la Corée du Sud, il y aura le Kenya, donc et le Brésil aussi, qui est également un partenaire avec lequel la France cultive des liens importants. Donc c'est cette marque qu'il veut laisser, Emmanuel Macron. Bon, est-ce que après il ne faut pas se leurrer. Vous savez, les Américains, ils ont un terme pour désigner les présidents qui sont à la fin de leur second mandat. C'est lame duck, canard boiteux. Et Donald Trump, c'est quelqu'un qui est impitoyable à cet égard. Et il sait très bien que Emmanuel Macron est dans cette situation-là. D'ailleurs, il ne s'est pas privé de lui rappeler très vertement à plusieurs reprises. Et donc, après tout, est-ce que ça ne rend pas une part de la marge de manœuvre d'un Macron un peu symbolique parce que il n'a plus vraiment les leviers de commande, que ce soit sur les affaires internationales, mais même au sein de l'Europe.
Merci, c'était Coulisses politiques avec le journaliste et écrivain Henri Vernet, un podcast disponible sur Spotify et sur radioorient.com.
C'était Coulisses politiques avec Henri Vernet.